musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Cet été, à Lisieux, une exposition sur les œuvres du peintre Jean-Olivier Héron aura lieu du 15 juillet au 20 août prochain à l'école du Ponant. On le retrouve en compagnie de Monique Manissard pour la deuxième partie de cette interview.
Qu'est-ce qu'on verra dans cette exposition, Jean-Olivier Héron ?
On verra d'abord ce qui est visible. Je ne pourrais pas parler de l'essentiel de mon travail qui était de réfléchir, tu vois, à la façon de rendre accessible des choses apparemment compliquées. Par exemple, tu as un livre sur la Bible ou sur les religions ou sur cela à faire. Il faut que tu trouves l'approche qui te permettra de mettre le bon foin à la hauteur des gens qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'il faut que la mangeoire soit accessible. Je veux dire par là que tu ne peux pas être trop intellectuel, tu ne peux pas employer des mots trop compliqués. Il faut que ce soit tout de suite accessible, tout de suite sensible. Alors, ça, c'est un travail invisible, finalement. Mais
là, tu parles précisément parce que tu éditais beaucoup pour les enfants.
C'est ça. J'éditais en priorité pour les enfants. Après, j'ai élargi formidablement parce que l'enfant, tu le suis et je dirais que tu vieillis avec lui. Donc, on verra l'aspect illustrateur. L'aspect artiste, avec des guillemets, parce que je ne pensais pas que je pouvais être un artiste. Un illustrateur, c'est assez confortable. On me demande de faire des couvertures de livres, je lis le livre, et je me dis, bon, alors, ça c'est l'auteur, c'est Duhamel, ou Simenon, ou Monterland, ou un tel, bon. Quelle est l'image percutante qui va retenir l'attention sans trahir l'esprit du livre, l'esprit de l'auteur, etc. Ça, c'est bien. Mais tu es loin de penser que ça peut avoir une valeur artistique. Alors maintenant, on me dit que si. Bon, alors tant mieux. Donc, il y aura toute cette partie-là. Il y aura une partie qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. C'est le côté faussaire, tu vois. À la manière de j'ai fait des faux dessins de Léonard de Vinci et tout le monde a avalé non seulement l'astico, l'hameçon, la ligne, la gaule, mais le pêcheur, ils ont tous cru que c'était vrai. Et ça, c'est un régal. T'es le seul à rire et à taper les cuisses dans ton coin, mais ça fait rien. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment très excitant. Et puis,
Oui, ces faux dessins de Léonard de Vinci, c'était pour un numéro du 1er avril.
Hein, c'était le numéro du 1er avril 1989 et ça s'intitulait Un marin inattendu. Là, on l'a retrouvé dans des carnets de Léonard de Vinci, des témoignages de sa passion pour la navigation et pour la mer. Je peux te dire que en dehors des deux premiers dessins qui sont vraiment de Léonard de Vinci, le reste, c'était magique, absolument magique, de rentrer dans cette espèce de mensonge, finalement. Bah oui, je dois avouer, oui.
T'es un escroc, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je suis un escroc. Et puis, je fais la même chose. Alors, pour les contes du septième jour, c'était autre chose. Il fallait représenter des nus. Mais d'une façon qui soit acceptable par tout le monde. C'était des histoires mettant en scène Adam et Ève. qui ne sont pas très habillés, on peut le dire, hein, dans la tradition. Alors, si tu les, tu fais des faux tableaux du XVIIIe siècle ou du XVIIe, avec des petites craquelures, avec, eh ben, ça passe comme une lettre à la poste, parce que c'est culturel. Ah, c'est culturel. Eh ben, tu peux montrer tout ce que tu veux, du moment que c'est culturel. Voilà. Donc ça, c'est des exemples, tu vois.
Il y aura aussi tes fameuses métamorphoses.
Ah, bé, ma petite feuille, là, c'est autre chose. Ben, métamorphose, ouais, je te crois. Alors, la première métamorphose, c'était, me servait d'éditorial pour le premier numéro de Voiles et Voiliers. Oh, quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure. Alors, je me voyais mal écrire un éditorial, parce qu'il faut te dire que j'étais le PDG, le directeur artistique et quasiment le rédacteur en chef. Alors j'avais un très 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 bon ami qui s'appelait Jean-Louis Guillemard, qui était un journaliste de la presse quotidienne, qui m'aidait énormément. Il y a eu Jean-Michel Barrault, enfin il y a eu plein de gens comme ça qui étaient épatants, qui sont montés en cours de route. Mais la responsabilité, au début, c'était moi qui devais l'assumer. Et ben, j'ai eu cette idée de prolonger la création par Adam et Ève qui font naître l'ange et la sirène de leur rêve. L'ange et la sirène se rencontrent. Et la sirène va pondre un œuf qui aura une espèce de créature qui aura l'aile de son papa et le corps de sa maman. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le jeune bateau qui sort de son œuf et qui va devenir le bateau enfant, le bateau adolescent, le bateau adulte et le bateau tel qu'on le connaît. Alors, comme j'adorais les planches de l'encyclopédie, là aussi j'ai fait un faux. J'ai fait à la manière des planches de l'encyclopédie cette première métamorphose. Et ça a été formidable, parce qu'alors là, elle a eu un succès phénoménal. Et le journal s'est lancé comme ça, parce qu'après, on m'a dit, mais attends, il ne faut pas que tu en restes là. Il faut que tu nous fasses au moins deux métamorphoses, voire trois par an. Parce que c'est l'image du... Oh là 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 là, quel boulet je venais de m'attacher au pied. Sauf que, le boulet, c'était pas un boulet du tout. C'était un espèce de ballon gonflé à l'imagination, tu vois. C'était léger, c'était drôle. Et je me suis amusé comme ça à faire naître non seulement des bateaux, mais des vélos, mais la voiture, les monuments, les bébés qui naissaient dans des pommes, etc. Tout se prêtait. On m'aurait demandé de faire naître des chaussures à talons hauts, je faisais naître des chaussures, des lavabos, tout ce que tu veux. On pourrait jouer encore à ça.
Bon, dans cette exposition, il y a aussi un triptyque sur la tempête de 1930.
Ah, ben ça, c'est la pièce centrale, je te crois, oui. Tu te rends compte, 2 mètres sur 2 mètres. C'est une belle histoire, parce que elle m'est arrivée au moment précis où j'allais plus pouvoir dessiner. Voilà. Parce que là, je vous parle de mon lit, donc je suis en ce qu'on appelle en soins palliatifs. Alors, vous ne laissez pas impressionner par le mot, ça veut dire qu'on soigne la douleur, mais je suis heureux comme un roi. Je suis un coq en pâte, j'ai un lit merveilleux, tout est bien, mais je ne pourrais plus dessiner. Alors, avant de perdre la faculté de dessiner, j'ai eu l'idée de rendre un hommage à Lisieux à travers un ex-voto géant. 2 mètres sur 2 mètres, pour moi, c'est géant. Consacré à la tempête de 1930. Et plus spécialement à travers le Pierre Palvado, qui est un tonnier qui a eu, c'est Edmond Tarot, je crois.
Raymond
Tarot, pardon, pardon Raymond, qui a senti, c'est-à-dire qu'il s'est complètement retourné, il y a une déferlante qu'il a pris sur l'avant, venant de l'arrière, tu vois, il a basculé par l'avant et il s'est retrouvé quille en l'air. Et il est resté quille en l'air, pendant un sacré bout de temps. Et puis, comme le lest était bien équilibré, comme Raymond t'a... Oui, quand même là, je pense que je m'en souvenais à peu près. Raymond avait bien assuré sa sécurité en tendant des tirants, tu vois, des barres de fer d'un bord à l'autre, etc. Il a résisté, son pont s'est écrasé de 10 cm quand même, hein, de 10 cm, mais il est revenu dans ses formes, et là, Biel, ça doit être un diminutif de Gabriel, l'homme de bar, j'ai toujours pas son nom, alors si quelqu'un sait son nom, Gabriel, donc Biel, il était l'homme de bar, a été remis à bord par une vague. Il tenait un bout quand même, ça a dû aider, tu vois, mais n'empêche que ça s'est fait exactement au moment où le bateau se remettait dans ses formes, etc., etc. J'ai trouvé que ça c'était vraiment un concentré de tout ce que j'aimais à l'île-Dieu, tu vois, la mer, la force de caractère, le courage, la prudence, cette espèce de ténacité hallucinante de deux hommes, donc le patron et le barreur, là, qui vont tenir la barre pendant presque 48 heures jusqu'à regagner l'île. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et le tout sur une mer, avant de regarder le truc, là, mon dessin, là, vous prenez de la coculine ou de la lotamine pour ne pas avoir le mal de mer, parce que c'est exactement ce qu'on a vu il y a quelques jours avec les grandes tempêtes, là. Mais l'écume en moins, parce que ça se passe au large, tu comprends. Donc, j'ai eu... l'énergie ou la force ou le je sais pas quoi de faire ce dessin. Et puis après j'ai trouvé les amis qui allaient prendre le relais, c'est-à-dire Jeff Mallet qui allait faire le meuble pour le présenter, tu vois, comme ça doit être présenté. C'est un triptyque, c'est deux volets qui s'ouvrent. Alors, tu as une vision à l'extérieur avec Raymond, tel que Raymond se voyait, si tu veux. Lui, il a une petite dent, une grosse dent, contre la religion, quand même. Ah oui, je crois qu'il y a un curé qui n'a pas été très correct avec sa mère. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Bref, il s'en souvient et ce n'est pas un pilier de paroisse. Mais il est d'accord pour que on remercie le courage qui l'a animé. Voilà, le courage. Alors, j'en ai fait une espèce d'ange courageux qui boxe le vent. Et puis, la prudence. Parce qu'il était très, 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 très fier de tout le travail qu'il avait fait sur son bateau et qui avait fait que ce bateau avait pu revenir au port alors qu'il avait 100 fois l'occasion d'exploser, tu comprends. Mais en revanche, à l'intérieur, je me suis mis à la place de Biel. Et lui, petit miracle qu'il a eu quand même, pouvait très bien être relié à Notre-Dame de la Meule, tu vois, parce que quand même, quand il y a une vague qui te fait la gentillesse de te prendre comme ça, et youp, ben voilà, c'est là ta place, je te remets à ta place, excuse-moi du dérangement, mais il faut que les choses soient bien. Et ils ont perdu aucun homme, voilà, grâce à cette vague, et peut-être à Notre-Dame de la Meule, ça, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais j'étais content, parce qu'après, il n'y avait plus de bonhomme, On ne pouvait plus tenir un pastel et c'était à d'autres de continuer.
Je précise que les pastels de ce triptyque, ils ont été faits en deux temps. Il y a quelques années, tu avais fait 9 pastels pour illustrer ce que t'as raconté Raymond Tarot pour un film. Et puis, tu as décidé de faire ce triptyque pour l'exposition.
Ah, c'est bien. C'est très bien que tu précises ça, parce que les 9 pastels ont été faits à la demande d'Emmanuel Audrin, qui est un cinéaste, qui se trouve être mon cousin Germain aussi, ça j'en suis bien, bien fier. C'est le même qui a fait Boléro pour le ton blanc, où il raconte son embarquement sur le Boléro, et qui a fait donc ce portrait de Raymond, à l'occasion duquel j'ai rencontré ce monsieur très impressionnant. J'avais ça au mur de mon atelier, et voilà, et ces 9 étapes d'une sorte de bande dessinée qui raconte le naufrage, etc., ont trouvé leur sens dans ce triptyque, dans cet exvoto.
Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur de montrer dans cette exposition ?
Ce qui me tient le plus à cœur, ça dépend quel regard tu as. J'aime bien m'être découvert comme artiste. J'ai fait ma première exposition, j'avais 75 ans. Avant, je n'avais jamais exposé. Je ne savais pas que je pouvais rendre des gens heureux en leur proposant ma vision de l'île-Dieu. Donc j'ai fait une exposition qui était surtout consacrée au ciel de l'île-Dieu. Parce que je trouve que l'île-Dieu, c'est la lumière, c'est cette espèce d'immense espace de liberté que tu as autour de toi avec la mer. Mais on regarde la mer, puis on ne lève pas suffisamment la tête. Et quand tu lèves la tête, tu n'es jamais déçu, parce qu'il y a des ciels. Alors bien sûr, maintenant, les ciels de l'île-Dieu, surtout en été, sont un peu gribouillés par les avions qui passent. Il laisse un trait de craie, comme ça. Il gribouille le tableau. Mais quand même, les couchers de soleil, la lumière tout le temps, bon, magnifique. Ça, c'est un certain regard. J'aimerais bien aussi qu'on se souvienne de tout mon travail encyclopédique, mais il ne va pas être surreprésenté, tu vois. Que dire d'autre, ce qui peut faire sourire, parce que je pense que l'humour sauvera le monde, tu vois. C'est mon travail d'escroc, voilà, avec les faux. Si j'avais pu faire des faux billets, alors là, je te dis que je ne me serais pas gêné. Juste pour ennuyer les gens qui sont ils vendent que du papier, finalement, j'arrête là. Le reste, tout mon travail d'écriture, finalement, on le trouvera à ce que tu disais, tu appelais la boutique, comme tout à l'heure, là. Et la boutique, là, on trouvera des livres que j'ai écrits, on trouvera surtout des livres d'enfants, mais des livres pour grandes personnes. C'est moins visuel. Et alors, les cartes postales aussi, si on pouvait montrer les cartes postales qui avaient un trou, ça, je serais tellement heureux. Je ne sais pas comment on va faire, parce que je crois qu'elles sont épuisées, mais alors, ce que je me suis amusé, c'était magnifique.
Oui, dans les cartes postales qui avaient un trou, comme dans le livre qui avait un trou, il est question de souris. C'est un animal très présent dans tous tes livres.
Oui, c'est un animal très, très présent. Il a commencé à être présent dans ma vie quand j'ai fait la découverte d'un homme magnifique, merveilleux, qui s'appelle Martin de Porres. C'était un mulâtre qui vivait au Pérou et qui est très connu là-bas pour un petit sermon qu'il adresse à un chien et à un chat. Tous les enfants péruviens ont lu cette histoire. Et voilà. Alors, je vous raconte. C'est juste cet homme qui est un dominicain, un frère tout simple, qui est responsable de l'infirmerie de son couvent, mais en secret, presque, sous l'infirmerie, il a fait la première clinique vétérinaire au monde. Et là, il soigne un dindon, entre autres, des chiens en quantité, des chats, un urubu. Alors, je pense que c'est qu'un urubu. Bon, on ne cesse de lui apporter des animaux malades. Et alors là, un jour, il tombe sur une souris et il dit à deux de ses pensionnaires, un chien et un chat, mes frères, vous vivez en bonne intelligence. Je vais vous présenter une souris. Faites-lui un peu de place et comportez-vous en créature de Dieu. Voilà. Et le chien et le chat lui font un peu de place. La souris arrive et elle est tranquille. Simplement, ce qu'il ne savait pas, c'est que quand vous voyez une souris, c'est qu'il y en a au moins deux. Et puis qu'il y en aura au moins 10, et puis qu'il y en aura au moins 20, et puis qu'il y en aura au moins 40, puis qu'il y en aura au moins 80. Et puis son couvent se trouve infesté de souris. Alors il tient un discours à l'ensemble des souris en leur disant « Mes sœurs, allez, venez, je vous installe dans le jardin, vous pourrez y faire tout ce que vous voulez, je vous servirai deux repas par jour, mais vous quittez tout. » La légende dit que toutes les souris ont quitté le monastère. Et ça, j'ai trouvé ça tellement délicieux que la souris est devenue, remarquez, pour tous les éditeurs pour la jeunesse, les souris, les livres de souris, on devrait construire une statue géante en l'honneur de tout ce que les souris ont apporté à l'édition anglaise à travers Beatrix Potter, au cinéma à travers Walt Disney, parce que n'oublions pas ce que nous devons à Mickey, et puis à nous, je veux dire, Domitil et moi, parce que on a fait un livre qui a été couronné par l'Académie Goncourt, c'est pas rien, donc avec une histoire de souris. Et la souris, sauf chez vous, hein, mais dans l'imaginaire, c'est un animal merveilleux. Voilà. Je ne demanderai pas à mon psychanalyste ce qu'elle représente, je le devine, hein. Mais voilà, ça a été un vrai plaisir de la mettre en scène à travers ces petites cartes postales qui étaient en vente à la poste.
Et donc, qu'on trouvera vraisemblablement à la boutique à la fin de l'exposition. Est-ce qu'on pourra acheter des tableaux pendant cette exposition ?
Alors ça, on ne savait pas. On ne savait pas du tout si une exposition organisée par la municipalité nous autoriserait à vendre des tableaux. Et puis, on a eu une idée, c'était de ne pas négocier peut-être la vente sur place, comme ça. Mais tout sera à vendre, évidemment. Simplement, on fera... les gens qui seront intéressés téléphoneront à un numéro qui ne sera pas le mien parce que moi je suis trop fatigué, tu vois, mais je trouverai un ami pour leur répondre et puis il leur dira, ben voilà, on avait pensé à tel prix, on avait... alors le triptyque, ça, ce sera à mes enfants de décider. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien en faire don à Lilieu, mais tu comprends, il faut d'un autre côté que je me mette en position très effacée. Là, c'est Ça, c'est le quart d'heure émouvant, tu vois, fais attention. Je dois lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut que je passe le flambeau à mes enfants, ce sera à mes enfants de décider ce qu'ils doivent en faire. De toute façon, il y aura une condition sine qua non, même s'ils décidaient de le vendre, c'est que ça reste à Lisieux. Et que ce travail soit visible chaque fois qu'on aura envie de le voir. Voilà, ça, c'est capital. Pour le reste, je dirais, ça ne m'appartient plus.
Merci Jean-Olivier d'avoir participé à cette émission de Neptune FM. Je rappelle que l'exposition « Merci pour tout, Jean-Olivier Héron en Lille et au-delà » a lieu du 15 juillet au 20 août à l'école du Ponant, tous les matins de 10 à 13 heures, sauf le dimanche, et qu'elle est organisée avec le concours du service patrimoine de la mairie de Lille-Dieu.
Merci infiniment. C'était un bonheur de répondre à tes questions. Merci Monique.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique direction la Normandie pour le festival Arsenic. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.